Aujourd'hui, nous célébrons donc Saint Jean l'évangéliste et l'apôtre. D'abord l'apôtre et aussi l'évangéliste. Et l'Église nous propose donc deux lectures. D'une part, le commencement de la première lettre de Saint Jean. Ce qu'on appelle les épîtres de Saint Jean, qui suivent, qui sont dans la partie du Nouveau Testament, après les Évangiles. Et alors, c'est assez frappant parce que nous avons d'abord le commencement des épîtres, donc 1, 4, et comment dire, la finale de l'évangile de Jean. Et l'épître est donc écrite après. C'est un peu quelque chose qu'on écrit en réfléchissant à ce qu'on a vécu. Alors, c'est vrai aussi de l'évangile, mais l'évangile a quelque chose de plus frais, une certaine fraîcheur dans le sens où Jésus est là, tandis que quand il écrit l'épître, c'est une réflexion, une méditation. Et en fait, cette première lecture, c'est un témoignage de foi à partir des sens. Alors, ça peut être un peu curieux, parce qu'on peut se dire, est-ce qu'on peut vraiment croire quand on voit, quand on touche, quand on entend. Et alors en fait, ça dépend croire quoi. Quand on a vu le soleil se lever, on ne va pas dire je crois que le soleil s'est levé, on dit je sais que le soleil s'est levé. Okay. Mais quand le soleil renvoie à autre chose, et là, c'est plus compliqué. Et de fait, lui, ce que Jean nous dit, c'est voilà, j'ai vu, j'ai touché, j'ai contemplé, j'ai entendu quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Autrement dit, il confesse immédiatement les deux natures du Fils de Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Alors c'est important de s'arrêter un peu dessus parce que il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Et je ne pense pas seulement à des gens qui ne sont pas chrétiens. Je me souviens d'un prêtre qui avait prêché sur les deux natures du Christ dans son homélie de façon abordable. Et à la sortie de la messe, il voit quelqu'un qui vient vers lui et qui lui dit « Oui, mon père, faudrait peut-être pas exagérer quand même. Hein. Jésus n'est pas Dieu. » Ben voilà, la foi, c'est quelque chose. Hein. Témoignage de foi à partir des sens, et puis nous avons une hymne à la vie. Alors ça, je trouve ça extrêmement frappant. Le nombre de fois où le mot « vie » vient, arrive, écrit sous la plume de Jean. Et où nous découvrons que, en fait, la vie est communicative. Elle se répand. Avec une analogie qui est toujours limitée, parce que les signes sont limités, il y a quelque chose de la vie dans l'eau. L'eau, ça se répand. C'est d'une puissance extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui puisse la limiter. Voilà. Donc, et cette vie, donc lui, en ayant vu et touché et regardé, il nous témoigne de la présence de la vie éternelle, du Fils de Dieu qui s'est manifesté à nous. Il y a un résumé de l'histoire du salut dans ces quelques lignes qui est absolument bouleversant. C'est une lecture à contempler, Jean. C'est pas un retour à la crèche, si vous voulez, parce qu'elle est toujours là, Mais c'est un regard de foi absolument bouleversant. Et alors ça s'achève sur la joie. Voilà, la victoire de la vie, ben c'est la joie parfaite. Et Jean commence cet épître ainsi, et très vite, quand on va reprendre le temps des lectures de Noël, nous allons voir Jean nous parler de la filiation divine. Ça ne va pas arrêter. Donc une lecture qui est plus à contempler qu'à décortiquer, si vous voulez. Et on arrive dans l'Évangile avec j'allais dire la magnification, si je puis comprendre ce néologisme qui donne magnificat, du reste, la magnification de ce témoignage de foi. C'est assez impressionnant de voir que là, on arrive au terme de l'Évangile, avec une curiosité, une assez grande curiosité. Donc Pierre est le plus rapide, est le plus lent. Jean est le plus rapide, mais il attend que Pierre entre dans le tombeau, où là aussi, hein, nous avons un résumé assez bouleversant d'une femme d'abord, une femme qui court. Vous avez remarqué peut-être que dans cet évangile, tout le monde court. La femme court, Pierre court, Jean court. C'est une course. Mais courons, dit Saint Benoît dans sa règle. C'est une course un peu contre la montre. On a enlevé le Seigneur, quoi. Donc il faut le trouver. Un jeu de piste. Et en fait, la piste mène à un tombeau vide. Et c'est très curieux de penser que tant de gens vont visiter le tombeau du Christ alors que c'est le seul lieu dont on soit sûr par révélation de ne pas trouver, où on ne trouvera pas Jésus. Puisque l'ange a dit, il n'est pas là, il est ressuscité. Bon, enfin bon, ça c'était un peu une blague, mais c'est quand même vrai. C'est le seul lieu où on est sûr qu'il n'est plus. Et alors la finale arrive avec toute cette description. Oui, c'était. Il faut un être extrêmement aimant pour décrire comme ça. C'est une description quasi poétique, vous voyez. Il aperçoit les linges. On a l'impression que les linges, il ne les a pas vus, il les a aperçus. Ils sont posés à plat, le suaire. Non pas posés avec les linges, mais roulés à sa place. Voilà. Et il nous décrit un ordre. La résurrection, c'est pas le bazar. Il y a eu un émoi épouvantable, tout le monde court dans tous les sens. Et il arrive devant le tombeau et tout est en place. L'ordre est rétabli. En fait, la résurrection vient rétablir toute chose. Tout retrouve sa place. Et alors, que se passe-t-il? Ben, il voit et il crut. Il vit et il crut. Alors en fait, qu'est-ce que voit Jean? Jean voit une absence et il croit une présence. Et alors c'est assez bouleversant parce que l'absence, il la constate de ses yeux et la présence, il la constate de sa foi. Il comprend que Jésus est ressuscité, qu'il est en vie, que la vie a pris le dessus. Et on peut comprendre que Jean est retourné, quoi. Alors Pierre, lui, il se contentera de retourner en se disant qu'est-ce qui s'est passé. Mais Jean, lui, il est retourné sur place. On a un peu l'impression que pour Jean, c'est terminé. C'est fini, c'est réglé, il a compris. D'où tout ce côté contemplatif, méditatif de l'Évangile, des Épîtres, de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est extraordinaire. me souviens d'un moine qui disait, dans Jean, il y a tout. Voilà. Et alors, vous mesurez aussi l'importance des signes. Parce que dans Saint Jean, c'est un évangile des signes, Jean. Tel est le premier signe que Jésus accomplit, etc. C'est toujours des signes. Vous demandez des signes, vous n'aurez que le signe de Jonas. Il est constamment question de signes. Pour Jean, le signe, c'est Jésus. Et vous voyez, on peut faire une comparaison. J'avais fait ça l'an dernier, je crois. On peut faire une comparaison entre les plaies d'Égypte avec Moïse. Et donc ces plaies qui sont des signes, et retrouver leur équivalent des signes, l'équivalent des signes en Saint Jean. C'est assez frappant. Jésus est celui qui accomplit, qui est le nouveau Moïse, et qui accomplit les signes qui amènent à la libération. Voilà. Sachant que le signe, ben c'est à la fois ce qu'il fait et à la fois ce qu'il est. Et dans l'évangile, l'Apocalypse, et même en Saint Jean du reste, nous avons cette phrase en grec ego eimi. Ego alpha kai omega, pardon. Je suis l'alpha et l'oméga. Et ça, c'est surtout dans Jean le met dans la bouche de Jésus dans l'Apocalypse. Et si vous rétroversez ça en hébreu, ego, ça se dit ani, et alpha et oméga, c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et en hébreu, la première lettre de l'alphabet, c'est aleph, et la dernière, c'est le tav. Aleph et tav, ça forme le mot ot en hébreu. Donc si on dit ça en hébreu, ça donne ani ot. Ani ot, ça veut dire je suis le signe. C'est assez troublant, quoi. Être l'alpha et l'oméga, c'est être le signe. Voilà, donc nous découvrons ici quelque chose de profondément contemplatif. Hein. Jean, on ne peut pas le lire vite, quoi. Jean y court, mais ses mots sont remplis d'une plénitude extrêmement impressionnante. Et avec Jean, on a l'impression que... là, on est le troisième jour, vous voyez. Et la nativité le 25, le 26, le martyr d'Étienne. Et le 27, on a l'impression que... Ben, ça y est, quoi. En fait, tout est réalisé. Tout est réalisé dès le 27. Il est né il y a deux jours, il est ressuscité trois jours après. Vous voyez, encore une fois, ces lectures sont bourrées de signes. Si nous vivions dans la liturgie, on ne pourrait pas sortir de la pensée de Dieu, de notre pensée de Dieu, de la présence de Dieu. Et au fond, c'est ça qui est important, quoi. C'est d'apprendre à reconnaître le Christ dans tous les signes que l'Église nous invite à poser, dans les lectures, dans les gestes, dans les signes de croix, dans les inclinations, dans les voilà tous les signes que l'on refait à la messe, la scène qui est nous réactualisons, le prêtre réactualise la présence réelle du Christ, réactualise le sacrifice, réactualise de façon non sanglante, dit la théologie, l'unique sacrifice sanglant du Christ, Jésus est là. Et Jésus ne fait pas de bruit. Et au moment de la consécration, vous voyez un bout de pain qui est... Voilà, il y a eu une parole. Et quand ce bout de pain est élevé, vous croyez que Jésus est là. Et c'est très impressionnant parce que, bon, je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, un Carlo Acutis a fait beaucoup d'expositions sur l'Eucharistie et les miracles eucharistiques reconnus indique que cette hostie, c'est une partie du cœur de Jésus. Ce qui signifie qu'en fait, le prêtre, quand il consacre une partie du cœur de Jésus et qu'il élève dans ses mains le cœur de Jésus. C'est tout de même extrêmement impressionnant, quoi. Ben voilà. Donc, ce que nous touchons, ce que nous voyons, et pensons-y aussi à la communion, Jésus nous touche aussi à ce moment-là. Donc, entrons dans cette grande contemplation, profitons de cette journée pour en vivre authentiquement, nous laisser imprégner par ces paroles de Jean. Alors, évidemment, le temps de Noël, c'est particulièrement le temps de lire tout doucement, et de relire, et peut-être de trouver un commentaire d'ailleurs, sur les épîtres de Jean.